Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons non pas, comme souvent, un grand invité, mais une grande invitée. Bonjour Sylviane Guillaumont-Jeannenet.
Bonjour.
Sylviane Guillaumont-Jeannenet, vous êtes économiste. Après un séjour de 4 ans au Sénégal, à votre retour en France en 1976, vous fondez avec votre mari à Clermont-Ferrand le CERDI, le Centre d'études et de recherche en développement international. Quelle était la nécessité de fonder un pareil centre? Pourquoi l'avoir fondé?
Mais d'abord parce que avec mon mari, nous avions un tropisme vers le développement et vers l'Afrique, du fait que nous avions passé 4 ans à Dakar, qui s'était révélée absolument passionnante. Et puis parce que nous avions le sentiment, à l'époque, que l'économie du développement était assez retardataire en France, qu'elle ne s'intéressait pas aux grands mouvements internationaux de l'économie du développement. Et donc, il fallait absolument créer quelque chose d'important. Alors, pourquoi Clermont-Ferrand? Au fond, c'est peut-être un peu ça le sens de votre question.
Non, c'était surtout pourquoi ce centre Clermont-Ferrand? Peut-être parce que c'est votre vie privée qui vous a mené là-bas.
Oui, mais nous aurions pu, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de possibilités d'aller à Paris. Il y avait une grande aspiration de professeurs sur la capitale. Mais nous avons préféré rester à Clermont-Ferrand parce qu'à l'époque, les universités parisiennes étaient dans un état très difficile. Et nous avons pensé que jamais nous arriverions à créer un véritable centre, un peu comme il y en a dans les pays anglo-saxons, où les chercheurs soient présents avec chacun un fauteuil, à l'époque un bureau, pas encore un téléphone, à l'époque c'était pas encore un ordinateur, mais ensuite c'est venu. Et effectivement, je crois que ça a été un pari réussi parce que nous avons eu des appuis, nous avons pu créer un véritable centre où les gens étaient là. Les professeurs étaient là, ils n'étaient pas partout ailleurs, sauf quand ils étaient en Afrique, naturellement, ou ailleurs dans le monde pour faire des recherches appliquées.
Le modèle, c'est le modèle anglo-saxon, vous?
En termes de centre de recherche, oui.
C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel niveau de production ça implique?
C'est pas tellement une question de production, parce que il y avait beaucoup de production en France, mais c'est plutôt le fait que les professeurs et les chercheurs, ils étaient sur le même site, et donc ils pouvaient avoir des échanges entre eux, et d'autre part que les étudiants étaient au même endroit. Et donc il y avait continuellement des échanges, n'est-ce pas, entre les différentes parties. Et ça, pour le projet de la science, c'est très très important. Alors, pour la dissémination aussi.
Je le disais il y a quelques secondes, c'était en 1976, donc vous avez fêté le 40e anniversaire de votre centre, oui, de recherche il y a quelques semaines, je crois que c'était au mois de septembre. Oui. Et à cette occasion-là, il y avait le président ivoirien Ouattara qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire de l'impact que vous avez eu en 40 ans? Est-ce que ça veut dire que vous avez, parmi vos anciens élèves, des présidents, des chefs d'État, des ministres, etc.?
Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, bien sûr. D'abord parce que nous avons eu de jeunes étudiants qui faisaient leurs études et qui sont venus dans un cycle particulier qu'on appelait le magistère de développement économique. Ces magistères ont été créés par le ministre Chevènement, il y a donc maintenant très longtemps, qui avait le grand avantage d'être on pouvait recruter les étudiants sur concours, ce qui était très spécial à l'université. Nous avons donc eu de très bons étudiants. Et puis aussi parce que il y a une vingtaine d'années à peu près, nous avons gagné un appel d'offres de la Banque mondiale pour créer une sorte de cours, n'est-ce pas, pour des auditeurs qui étaient des fonctionnaires venant des pays en développement, naturellement particulièrement francophones, donc particulièrement venant d'Afrique. Et donc nous avons eu énormément de fonctionnaires qui sont venus et qui ensuite ont eu des postes importants. Donc je pense que à peu près partout en Afrique, nous avons soit d'anciens ministres, soit d'anciens directeurs Même quelquefois, quand nous nous promenons dans la rue, nous sommes ailés, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour, j'étais votre étudiant à telle époque. Maintenant, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les reconnaître.
Alors, au cours de cette émission, nous allons bien sûr vous interroger sur vos travaux au sein du CERDI, le centre que vous avez fondé, mais aussi d'une autre structure plus récente, la FERDI, la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Des travaux qui recoupent très souvent l'actualité africaine la plus brûlante. Nous parlerons aussi de l'AFD, l'Agence française de développement, dont vous êtes administratrice. Une première question posée par Frédéric Maury.
Donc vous avez parlé de l'influence du CERDI qui a formé un certain nombre de ministres, de responsables à la Banque mondiale. Donc c'est vrai que c'est un organisme qui n'est pas forcément très connu par le grand public, mais qui a une véritable influence en matière de développement. Est-ce que on peut dire que le CERDI a une vision particulière de la question du développement et de la question de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une vision qui la différencie des autres?
Non, peut-être pas une vision de l'Afrique. Non, je ne pense pas qu'il y ait une vision particulière du développement, mais il y a une méthode qui a tranché avec l'économie du développement classique en France, qui consistait à se vouloir aussi scientifique que les recherches anglo-saxonnes, et donc
fondée
sur de l'appliquer. Ça c'est la méthode. Mais sinon, bon, les gens du CERDI, les chercheurs du CERDI sont des gens indépendants, donc ils ont le droit d'avoir chacun leur
opinion. Est-ce qu'ils ont chacun des visions différentes? Est-ce que chacun, il y a des gens qui sortent de chez vous qui ont des visions très opposées des questions de développement, ou est-ce qu'il y a quand même une tendance commune entre tous ces gens-là?
Non, je pense qu'il y a une tendance commune, effectivement, qui consiste à dire que, au fond, qui se situe dans l'idée que, bon, le marché, c'est très important en Afrique, mais qu'en même temps, il y a des déficiences de marché et que toute la politique économique doit servir à réduire ces déficiences de marché. Ça, je pense que
c'est quoi ces déficiences de marché? Vous pouvez en citer quelques-unes. Quelles sont ces déficiences de marché?
Mais par exemple, il y a des tas de choses qui manquent quand une entreprise veut se créer en Afrique. Elle rencontre des obstacles extrêmement importants en matière, par exemple, d'infrastructures, en matière de marché du travail. Il n'y a pas un marché du travail souvent qui est bien organisé. Il n'y a pas suffisamment de diplômés. Ils ont énormément de peine à recruter les personnes compétentes. Et puis surtout, la déficience de marché la plus importante, je pense, c'est la déficience de marché en ce qui concerne le système financier. Parce que les petites entreprises ont énormément de peine à se financer. Je crois que vous avez une émission récemment de Jean-Michel Severino sur ces ondes qui a insisté là-dessus, sur cette difficulté que les entreprises ont à se financer auprès des banques parce qu'elles ne présentent pas suffisamment d'assurance, de garantie. Hein.
Absolument. Sylviane Guillaumont-Janet, venons-en à vos travaux récents au cours des dernières années. Vous avez présidé le groupe de travail de la FERDI, de votre fondation, qui s'est penché sur le destin de la région sahélienne. Mmh. Ce groupe de travail s'intitulait « Allier sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel ». Le résultat de ce travail, cela a été un livre dont le titre est identique. Et ce qui vous a inspiré, c'est la volonté de combattre le pessimisme ambiant concernant le Sahel. C'est une mission très ambitieuse, combattre le pessimisme sur le Sahel.
Oui, c'est vrai. Enfin, si vous permettez, je voudrais dire d'abord que c'est tout à fait dans la ligne de ce que veut faire la FERDI, parce que la FERDI, c'est différent du CERDI. C'est une fondation et son objectif, n'est-ce pas, c'est de réfléchir aux meilleures politiques fondées sur la recherche. Et donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une influence sur la politique économique et sur ce que font les gouvernements. Et là, en ce qui concerne le Sahel, nous avons été un peu interpellés en nous disant, ben voilà, c'est vraiment la question la plus importante pour l'Afrique, pour la France, pour l'Europe, c'est le Sahel. Et donc, il faut que nous réfléchissions de façon indépendante et si possible un peu originale sur ce pays.
Voilà. Alors, quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Comment convaincre vos interlocuteurs, les décideurs, que c'est une région qui a du potentiel et qui n'est pas vouée à la famine, aux guerres, à la pauvreté, à la misère, à l'émigration?
Notre document s'adresse à beaucoup de publics différents. Naturellement, d'abord aux bailleurs de fonds internationaux et à la France en particulier. Nous espérons un peu influencer, disons, la prochaine campagne présidentielle pour que les problèmes du Sahel soient quand même au cœur de la réflexion du futur président. Donc, je ne sais pas qui ce sera, mais...
En tout cas, ça sera pas François Hollande.
Ça, c'est important. Mais aussi, nous voulons aussi parler au gouvernement africain. C'est pour ça que nous avons consulté un certain nombre d'Africains. Et nous avions notamment dans notre groupe de réflexion Tersus Zongo, qui était l'ancien Premier ministre du Burkina et qui nous a apporté énormément. Donc l'idée, c'était aussi, comme il dit lui-même, de redonner espoir au gouvernement africain en leur disant « tout n'est pas perdu et les bailleurs de fonds devraient être à vos côtés pour résoudre ce problème fondamental ».
Quels sont les éléments d'espoir, justement? Quels sont les éléments qui vous permettent de penser qu'il y a quand même un potentiel économique, qu'il peut y avoir une sortie de crise?
Mais d'abord, nous avons eu l'impression qu'on traitait les problèmes de sécurité, les problèmes de développement de façon séparée. Alors, c'est vrai, quand il y a insécurité, c'est difficile d'avoir des actions de développement. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de sécurité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cherché tout ce qu'on pouvait faire en matière de développement. Et il y a, au fond, trois domaines qui nous ont paru particulièrement importants. Le premier domaine, c'est l'éducation. Parce que il y a eu un très gros effort des bailleurs de fonds en faveur de l'éducation. Les taux de scolarisation ont totalement augmenté. D'ailleurs, ça faisait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Mais très curieusement, quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que depuis quelques années, 4-5 ans, l'effort de la communauté internationale en matière d'éducation s'est réduit. On a moins dépensé pour l'éducation. Et d'autre part, les gouvernements, mais aussi les bailleurs de fonds, parce que c'est plus facile à justifier, ont voulu faire du quantitatif, c'est-à-dire augmenter les taux de scolarisation. Mais on s'est pas beaucoup préoccupé de la qualité. Et nous avons eu, dans les témoignages de personnes venant du Sahel, des réflexions très inquiétantes sur le fait que... par exemple, au Niger, n'est-ce pas, il y a un développement de plus en plus important des écoles coraniques. Et les parents ont de plus en plus de réticence à envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que la sécurité n'y est pas toujours assurée, mais aussi parce que ces écoles ne correspondent pas véritablement aux aspirations des familles, parce que la qualité n'est pas toujours là. Et donc, nous avons dit il y a un effort très très important en matière d'éducation à faire pour relever le niveau des enseignants, pour les payer mieux, etc. Et que dans la lutte, au fond, contre le djihadisme, c'était quand même fondamental. Parce que toutes les écoles coraniques ne conduisent pas les enfants à être des djihadistes, mais quand même, il y a une diffusion, une influence de l'islamisme qui se développe à travers ces écoles. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'éducation. Si vous permettez, le deuxième, c'est l'agriculture.
Alors justement, on va y venir à l'agriculture, parce que l'un des grands problèmes, Sylviane Guillaume-Jeannet, l'un des grands problèmes des pays sahéliens, c'est la production agricole. Et cette année, par exemple, la production au Mali a été excellente, elle bat des records. Écoutez les explications que donne Sirimane Sako de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Il est en charge du programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali. C'est un programme financé par la Banque mondiale. Et Sirimane Sako répond aux questions de Gaël Lalex du service économique de RFI.
Le premier facteur, c'est la volonté des autorités politiques qui ont essayé de mettre l'accent sur l'agriculture. Actuellement, le budget consacré à l'agriculture est de 15,1%. Ensuite, aussi, il y a la dimension pluviométrie. Et on a une très bonne pluviométrie. Mais il y a aussi les résultats de la recherche agricole en termes de semences, en termes de calendrier agricole et d'autres aspects, et toute la diffusion. Mais aussi l'engagement des producteurs, parce que les producteurs, depuis plusieurs années maintenant, compte tenu de la situation du pays, ont augmenté en termes d'objectifs leur superficie, se sont beaucoup plus engagés pour produire plus.
Vous disiez la part du budget de l'État destiné à l'agriculture a augmenté.
Oui, c'est de 15,01% pour 2017.
Et très concrètement, cet argent, parce que ça fait des sommes colossales, qu'est-ce qu'il finance comme projet? Comment est-ce qu'il soutient les agriculteurs?
Il y a les subventions des semences, des engrais. Il y a aussi un programme d'équipement qui a commencé par les 1000 tracteurs. qui doit continuer sur les motoculteurs, sur les équipements de lait, d'élevage et de pêche. Nous, notre souhait, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus mettre l'accent sur les questions d'aménagement hydro-agricole pour la maîtrise de l'eau, pour pas que le risque soit toujours lié à la pluviométrie. Et chaque 2 ou 3 ans, on a des sécheresses cycliques, donc il va falloir travailler à la maîtrise de l'eau, et avec la maîtrise de l'eau, on va maîtriser la production et la production.
Alors, Sylviane Guillaume-Montjanet, vous venez d'entendre ce témoignage d'un producteur, d'un dirigeant des producteurs maliens. Vous disiez tout à l'heure que la question agricole était centrale. Est-ce que ce témoignage recoupe vos préoccupations?
Oui, bien sûr. Et cette année, ça n'a pas été mal, comme il l'explique, parce qu'il y a eu une bonne pluviométrie, mais... Le problème, c'est qu'il y a aussi des années où il y a une mauvaise pluviométrie. Donc, il y a un énorme effort à faire en matière d'irrigation, en matière de recherche agricole, pour que ce soit des semences qui soient résistantes à la sécheresse, surtout avec les perspectives du changement climatique. Et puis, il y a un effort, je ne crois pas qu'il en ait parlé, qui est le problème de l'électricité. Hein, parce que... Le problème, c'est pas seulement de développer l'agriculture, mais c'est que les jeunes restent dans les régions agricoles. Hein. Et à l'heure actuelle, ils n'ont pas envie de rester dans les régions agricoles pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est souvent dominé par les plus anciens, comme on dit en Afrique. Et puis parce que ils n'ont pas un style de vie qui correspond à leur aspiration. Et pour qu'ils aient un style de vie qui corresponde à leur aspiration, eh bien, c'est essentiel qu'ils aient l'électricité. Hein. Donc là, il y a un gros effort à faire pour qu'ils puissent avoir des recharger leur téléphone portable, qu'ils puissent avoir l'électricité la nuit, qu'ils puissent avoir la télévision, la radio, bien sûr.
Donc vous posez ce diagnostic sur l'éducation et sur l'agriculture, mais le problème de ce diagnostic, c'est la mise en œuvre en fait des recommandations. Or, ces pays-là ont très peu d'argent, ils ont des ressources extrêmement limitées, on est d'accord, beaucoup de problèmes à gérer, une forte démographie, donc... À qui incombe cette responsabilité? Aux bailleurs de fonds? Vous pensez que, par exemple, les grands acteurs du développement ont eu tendance à se désintéresser du Sahel?
Non, ils n'ont pas tendance à se désintéresser du Sahel, je pense pas, parce que il y a quand même beaucoup d'argent qui sont promis au Sahel. Mais le problème, c'est que ils ont parfois des modes d'intervention qui font qu'on promet des choses, et puis ensuite, ça met très longtemps à être décaissé. Hein.
Et pourquoi?
Mais parce qu'il y a des conditionnalités importantes, il faut être sûr que l'argent n'est pas détourné, etc. Mais à force de mettre trop de précautions, on finit par avoir de la peine à agir. Et puis il y a un problème aussi, dont on parle depuis des années, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans appropriation, n'est-ce pas, des actions par les gouvernements. Or, très souvent, les bailleurs de fonds, ils veulent être efficaces. Alors, quand ils veulent être efficaces, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des agences où ils donnent de l'argent à des ONG pour que celles-ci interviennent. Mais ça peut être efficace à court terme, mais à long terme, ça ne l'est pas. Parce que pour que ça perdure, il faut que ce soit les collectivités locales, soit le gouvernement qui prennent en charge tout cela. Et il y a donc, un problème important de changement de façon de faire des bailleurs de fonds pour accélérer leur décaissement et leur...
Et vous voulez dire qu'il faut marginaliser les ONG?
Non, pas marginaliser les ONG, mais il y avait un sociologue qui nous disait on a chargé une ONG de distribuer de l'argent aux plus pauvres, et en même temps la collectivité locale avait la charge de le faire, mais elle avait beaucoup beaucoup moins d'argent. Donc dans une certaine mesure, ça la déconsidérait par rapport alors. Non, les ONG, c'est très, très, très important et on peut leur faire des projets précis, mais il faut que ça reste toujours sous le contrôle, n'est-ce pas, des collectivités.
Alors, Sylviane Guillaume-Jeannenet, la grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique, nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité pour reprendre cette intéressante conversation. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, Écho d'ailleurs après le flash info avec Orange Monnaie. Orange.
France 24.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa formule grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons une grande invitée en la personne de Sylviane Guillaumont-Jeannenet, cofondatrice du CERDI, le Centre d'études et de recherche en développement international de Clermont-Ferrand. Ce centre a formé depuis 40 ans des générations entières d'économistes du développement. Beaucoup d'entre eux travaillent aujourd'hui dans les grandes institutions financières mondiales et dans les gouvernements africains. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons beaucoup parlé du Sahel, de ses difficultés économiques et de vos recommandations pour son développement, Sylviane Guillaumont-Jeannenet, ce qui amène à la première question de Frédéric Maury dans cette deuxième partie.
Alors, on va élargir un petit peu la vision et pas forcément parler que du Sahel, mais de l'Afrique de manière générale. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, et pendant 10 ans, l'Afrique a connu une croissance très forte, beaucoup plus forte que dans les périodes précédentes.
Oui.
Croissance qui, certes, vient de se ralentir, mais qui a quand même été assez soutenue. Néanmoins, on a l'impression parfois que cette croissance n'a pas vraiment porté ses fruits en matière d'emploi, en matière de transformation économique, en matière d'industrialisation, etc. Est-ce que vous, vous pensez que il y a une période un peu dorée qui a été perdue pour le continent africain et que finalement ces 15 ans, malheureusement, n'auront pas forcément servi à complètement changer les choses?
Mais ce que je dirais d'abord, c'est qu'il y a une immense diversité africaine. Et donc c'est très difficile de dire voilà ce qui s'est passé en Afrique parce qu'il y a une très grande diversité. Et parmi cette diversité, on peut dire qu'il y a des pays qui ont des ressources naturelles très importantes, puis d'autres qui ont beaucoup moins de ressources naturelles. Et très curieusement, au cours des dernières années, il y a eu naturellement un développement important des pays qui avaient des ressources naturelles, notamment des pays qui avaient du pétrole, parce que il y avait une hausse du prix des pétroles, et donc ça leur donnait des ressources extraordinaires. Mais en même temps, ça leur créait des problèmes. Hein, parce que quand on a beaucoup de ressources de pétrole et beaucoup de flux de capitaux qui viennent, on risque d'avoir une politique pas très favorable aux autres secteurs. Hein. Et puis, il y a les autres pays, comme par exemple le Sénégal, le Burkina, dans une certaine mesure jusqu'à maintenant le Ghana, qui va devenir aussi un pays producteur de pétrole, je crois. Oui, mais pendant longtemps, il ne l'était pas. Mmh. Et donc, là, il y a eu énormément de progrès et de développement diversifié.
Mais quel progrès ? Parce que quand la situation de l'emploi, par exemple, on ne peut pas dire qu'elle se soit métamorphosée dans ces pays-là.
Ce n'est pas métamorphosée, mais elle s'est quand même améliorée. Hein. Mm-hmm. Il y a quand même eu une amélioration. Alors, il y a des obstacles, naturellement. Et en fait, c'est comme en France, n'est-ce pas ? Les sources de l'emploi, je crois fondamentalement que c'est les petites et les moyennes entreprises. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai défi de ces pays vis-à-vis de la petite et de la moyenne entreprise. C'est que ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il y a des obstacles au développement de ces petites et moyennes entreprises, et notamment des obstacles qui sont en partie liés à la gouvernance. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, mais il y a eu aussi un développement des petites et moyennes entreprises. Vous aviez, j'évoquais ça, vous aviez Jean-Michel Severino qui est venu, et c'est vrai que dans son dernier livre, Entreprenant Afrique, il a montré qu'il y avait la possibilité de créer, et qu'il y avait des entreprises qui s'étaient créées, mais pas en nombre suffisant, et en même temps, il y a aussi beaucoup d'obstacles au développement de ces petites et moyennes entreprises.
Alors, Sylviane Guillaumont-Jeannenet, dans vos travaux universitaires de recherche, vous avez beaucoup écrit sur les problèmes monétaires, sur les problèmes de change. Le rôle du franc CFA est contesté aujourd'hui. Le porte-parole de cette contestation, c'est l'économiste togolais Kako Nubukpo, qui était à ce micro il y a quelques semaines. On écoute ce qu'il dit sur le franc CFA.
Globalement, l'idée, c'est de se dire qu'il y a une élite, essentiellement africaine d'ailleurs, qui profite des avantages du CFA, notamment la capacité à faire partir les capitaux de la zone franc vers la zone euro, sans coût quasiment. Et finalement, tout ce que nous aimerions en termes de réinvestissement des profits générés au sein de la zone, tout ça n'est pas fait. Donc, quand vous avez un taux de change fixe, que vous avez la garantie de convertibilité, que vous avez la capacité de faire partir librement les capitaux, il n'y a pas de contrôle. Vous pouvez, sans trop de difficultés, rapatrier vos capitaux de la zone franc vers la zone euro. Et donc, je crois que l'élite france-africaine profite du CFA au détriment des petits producteurs ruraux qui, eux, n'ont pas tous les avantages liés à cette monnaie.
Vous en pensez quoi, Sylviane Guillaumont? On vous voyait sourire pendant la diffusion de cette déclaration de Kakonubukpo.
On sentait un peu d'énervement, on ne sait pas trop. Mais
je trouve ça assez curieux parce que depuis au moins 1993, les pays de la zone franc ont mis en place un contrôle des capitaux. Donc il suffit de parler à un certain nombre d'Africains pour voir qu'ils n'ont pas le droit de sortir leurs capitaux. Alors, naturellement, ils peuvent le faire peut-être en fraude, mais quel que soit le régime d'échange, que ce soit un régime de change flottant, un régime de change fixe ou autre chose, le problème, c'est de savoir si le contrôle d'échange est correctement ou non appliqué. Ça, c'est un problème de gouvernance, mais ce n'est pas un problème de régime d'échange, puisque de toute façon, il y a un contrôle important. Les pays africains ont mis en place un contrôle d'échange, n'ont pas le droit de sortir les capitaux. Et quand on parle de la convertibilité parfaite, c'est simplement que ça veut dire que même si les pays africains n'avaient plus de réserve de change, eh bien, la Banque centrale pourrait, à travers le compte d'opération, obtenir des devises pour satisfaire ceux qui ont besoin d'avoir des devises, et notamment les importateurs, parce que c'est ça qui est très très important. Une économie ne peut pas fonctionner sans avoir des importations et donc des devises pour importer. Et les règles de la zone franc, ça assure, n'est-ce pas, qu'on pourra continuer, quelles que soient les circonstances, à faire vivre les entreprises, parce qu'elles pourront importer les biens dont elles ont absolument besoin. C'est ça qui est très important. Et si vous regardez à l'heure actuelle la situation du Nigeria, par exemple, qui a mis un contrôle d'échange très difficile, parce qu'ils ont un problème, eh bien, on voit que c'est désespérant pour les entreprises.
Frédéric Maury.
Chez Kakonubukpo ou chez d'autres économistes, il y a un appel qui est un appel à la réforme, à l'évolution du franc CFA. C'est-à-dire de dire le système sur lequel repose le franc CFA, et notamment la fixité avec l'euro, ne favorise pas le développement économique, est un frein au développement économique. Est-ce que vous aussi, vous partagez ce point de vue d'une part, et est-ce que vous appelez aussi à une évolution du franc CFA?
Parce que la monnaie serait trop forte par rapport à la réalité des économies africaines.
Oui, alors, dans les propos de M. Kakou, il y a deux choses différentes. Il y a le problème général du système de change, du système de la zone franc. Il appelle ça une servitude monétaire, parce que ça existait depuis très très longtemps. Moi, je dirais que puisque ça existe depuis très longtemps, c'est que c'est pas si mauvais, hein. Puisque ça a perduré pendant 60 ans, je crois. C'est donc qu'il y avait quand même une force. Et je pense que le système d'échange de la zone franc, il n'est pas désuet, qu'au contraire, il est extrêmement, extrêmement moderne. Il est extrêmement moderne pour deux raisons. La première, c'est que, vous savez, quand le Fonds monétaire fait des prêts, par exemple, à des pays, eh bien, il met toujours une conditionnalité, il met des conditions assez strictes à ses prêts. Alors que le système du compte d'opération, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de conditions au tirage sur les comptes d'opération lorsqu'il devient débiteur, lorsque les pays n'ont plus de réserve. Donc, c'est quelque chose de complètement différent et je trouve de beaucoup plus moderne, parce que ça consiste à dire on vous donne cette garantie, mais naturellement, vous allez avoir une politique, n'est-ce pas, qui est conforme au choix du régime d'échange que vous allez faire. Mais c'est vous qui l'a décidé, parce que c'est pas la France, contrairement à ce qu'on dit. La France, elle n'est, pour ainsi dire, pas. Elle a un tout petit rôle dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est le premier problème. C'est le problème du régime d'échange. Je trouve qu'il n'est pas du tout déçu.
La question
Et puis le deuxième aspect, si vous permettez, qui fait qu'il n'est pas déçu du tout, et il ne faut pas l'oublier parce que c'est central quand on parle de la zone franc, c'est que la zone franc, c'est deux unions monétaires, avec d'ailleurs pas un franc CFA, mais deux francs CFA distincts. Hein. Et donc, ce qui est extraordinaire dans la zone franc, n'est-ce pas, c'est qu'on a ces deux unions monétaires et qui ont été créées à une époque où il n'y avait pas d'union monétaire. Hein. C'est bien antérieur à l'Union monétaire européenne. Et ça joue pour le développement un rôle fondamental, parce que l'intégration en Afrique, c'est fondamental. Et il n'y a une intégration monétaire à l'heure actuelle qu'en zone franc. Donc ça c'est un gain extraordinaire. Alors, si vous permettez, vous me parliez
du franc CFA.
Du franc CFA, c'est-à-dire de la parité. Oui. Est-ce qu'elle est trop élevée ou est-ce qu'elle n'est pas trop élevée? Alors, d'abord, je ne pense pas qu'on doit parler du franc CFA, parce qu'il y en a deux. Et il y a en fait deux situations économiques tout à fait différentes. Parce que dans l'Union monétaire ouest-africaine, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, les pays qui appartiennent à l'Afrique de l'Ouest, et il y a notamment tous ces pays, presque tous ces pays, une grande partie des pays du Sahel dont nous parlions, pas tous, puisque le Tchad est dans l'autre, et la Mauritanie n'en fait pas partie, mais enfin le Burkina, le Mali en font partie. Donc, dans ces pays, je ne pense pas qu'il y ait une surévaluation du franc CFA. Notamment, pourquoi ? Eh bien, parce que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, hein, très profondément au cours des quelques années. Et donc, comme le franc CFA est rattaché à l'euro, il y a eu en quelque sorte une dévaluation implicite du franc CFA qui a déjà eu lieu, hein. Donc, je ne pense pas, enfin on pourrait faire des études, mais les études que font le Fonds monétaire international ne montrent pas qu'il y ait une surévaluation importante de l'UMOA. Bon, alors il y a la CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale, hein, la communauté des États de l'Afrique centrale. Alors là, c'est différent. C'est différent, pourquoi ? Parce que, c'est, sauf le Centrafrique, qui est un problème particulier, sont tous des pays pétroliers. Et ils ont bénéficié donc d'une hausse importante du prix du pétrole. Et comme je le disais tout à l'heure, quand les pays ont une hausse du prix du pétrole, un développement de leur secteur de ressources naturelles et pétroliers, ça risque toujours de gêner, vous parliez, l'industrialisation. C'est pas parce que ça tend à élever les prix, et donc c'est vrai qu'il y a des, peut-être là un problème, n'est-ce pas, de niveau du taux de change. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il y a un problème de niveau du taux de change qu'il faut forcément dévaluer la monnaie.
Hein. Vous voulez dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain,
oui,
c'est ça ?
Parce qu'il y a d'autres moyens de résoudre le problème. Hein. Et le fait d'avoir un change fixe, ça vous oblige aussi à prendre des vraies mesures pour accroître la productivité. Donc, il faut réfléchir à deux fois avant de dire qu'on va dévaluer la monnaie, parce que quand on dévalue une monnaie, ça veut dire beaucoup d'inflation, et que l'inflation, c'est très mauvais pour les pauvres.
Et récemment, dans Jeune Afrique, le gouverneur de la BCAO, donc qui s'occupe du franc CFA en Afrique de l'Ouest, a jugé que les critiques contre le franc CFA n'étaient pas crédibles, que c'était pas basé sur des études économiques crédibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Oui.
Vous pensez que les gens qui critiquent aujourd'hui ne se basent pas sur des études crédibles ?
Il y a beaucoup de... Non, oui, je pense que ça ne porte pas sur des études... Ça ne porte pas sur des... sur des études crédibles. Et surtout, si vous permettez, il y a quelque chose qui n'est jamais évoqué. C'est qu'on dit, quand on parle du régime d'échange, pas seulement de la parité, pas du niveau du taux de change, mais quand on parle du régime d'échange, parce que c'est ce qu'a dit M. Kako, il a dit, il ne faut pas de fixité. Ce qui n'est pas bien, c'est la fixité avec l'euro. Bon, alors, il faut savoir ce qu'on veut, par quoi on veut le remplacer. Hein. Alors, on ne peut pas le remplacer dans des pays qui nous intéressent par un flottement libre de la monnaie comme il y en a pour l'euro. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que pour l'euro, ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas parce que ça entraînerait une fluctuation insupportable du taux de change. Bon. Donc quand on parle de flottement, on parle de flottement dirigé. Comme il y en a un certain nombre de pays, d'ailleurs en Afrique, qui ont un flottement dirigé. Ça veut dire que la Banque centrale intervient sur le marché des changes régulièrement pour avoir une certaine évolution du taux de change. Mais naturellement, le taux de change est plus flexible, hein, puisqu'elle va pouvoir au jour le jour... Mais elle intervient pour qu'il n'y ait pas des brusques augmentations, des brusques diminutions. Bon. Alors, si on faisait ça en zone franc... Hein, ça veut dire que ça ne serait plus les gouvernements qui décideraient du niveau du taux de change, mais les banques centrales. Hein, que les banques centrales. Or, je ne suis pas sûre que les pays de ces deux unions, qui ont déjà abandonné leur souveraineté monétaire pour l'émission monétaire, sont prêts à abandonner le choix de leur niveau de taux de change. Hein. Et c'est donc un vrai problème politique de savoir si on peut passer d'un régime de change fixe à un régime de change flottement dirigé. D'ailleurs, aucune union monétaire n'a un régime de flottement dirigé. Hein. Ce n'est pas par hasard. Parce que ou bien c'est un régime de change fixe, hein, ou bien c'est un régime de flottement pur. C'est le cas de l'Union monétaire européenne. Mais aucun ne se trouve dans cette situation intermédiaire qui est celle, au fond, auquel pense M. Kako.
Sylviane Guillaumont-Jeannenet, vous êtes la grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique. Restons dans ces problèmes d'intégration que vous évoquiez tout à l'heure et qui sont sous-jacents à tout votre discours sur le franc CFA. Vous disiez, ce franc CFA, ces deux francs CFA, ils sont indispensables à l'intégration économique de ces deux zones africaines. Pourtant, cette intégration, on a l'impression qu'elle avance pas, qu'elle se fait pas. Il y a toujours des frontières, les obstacles à la circulation des biens et des produits sont innombrables. Comment cela se fait-il et pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à abolir de manière plus affirmée leurs frontières commerciales en particulier?
Ça dépend. Si on parle, par exemple, de l'Union monétaire ouest-africaine, en principe, il n'y a quand même plus de frontières. Donc, et d'ailleurs, toutes les études montrent que les échanges à l'intérieur de cette union sont plus importants qu'entre les pays qui n'appartiennent pas à cette union. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a aucune influence sur le commerce. Ceci dit, c'est vrai que ces échanges ne sont pas très importants. Ils ne sont pas très importants parce qu'il n'y a pas une diversification suffisante des économies et puis parce qu'il reste des obstacles qui ne sont pas des obstacles douaniers ou réglementaires, mais qui sont les coupeurs de route, les interventions d'un certain nombre de personnes pour obliger les gens à payer quand ils se... Donc ça c'est encore une fois de plus un problème d'autorité de l'État et de gouvernance. Je ne crois pas que ce soit une question économique.
Sylviane Guillaumont-Jeannenet, venons-en à un autre domaine de cette Afrique économique, c'est la Tunisie qui réunissait ses bailleurs de fonds au début de la semaine à Tunis. Selon le Premier ministre Youssef Chahed, cette conférence a été un succès puisque 14 milliards d'euros de promesses d'aide financière ont été faites. Selon l'industriel Radi Medeb, qui était il y a quelque temps ici à votre place, 6 ans après la révolution qui a renversé le régime Ben Ali, la Tunisie doit maintenant adapter son économie aux besoins de sa population. Radi Medeb au micro de l'envoyé spécial de RFI à Tunis, Dominique Bayard.
Nous avons oublié pendant 6 ans l'économie, mais l'économie ne nous a pas oubliés. Aujourd'hui, les données macroéconomiques, les grands équilibres de la nation se sont dégradés depuis 6 ans. Le chômage s'est approfondi, les conditions sociales se sont dégradées souvent, le commerce parallèle a fleuri, la contrebande également, une forme de corruption rampante. Nous avons besoin aujourd'hui de nous remettre au travail, de reconstruire l'économie, de donner de l'espoir à chacun de nos jeunes, de leur permettre d'être partie prenante dans un processus de développement porté par une croissance inclusive. Et c'est un peu les messages que voudrait lancer cette grande conférence. Nous renouons enfin avec l'économie, nous remettons enfin l'économie au plus haut de l'agenda politique et nous prenons l'engagement de réformer, de réformer, de réformer pour lever toutes les situations de rente, de privilèges et donner sa chance à chacun de participer activement à la reconstruction de la Tunisie.
Frédéric Maury.
Une réaction à ces propos de Radi Medeb sur l'évolution de l'économie tunisienne qui finalement est décevante par rapport aux espoirs post-révolution.
Oui, je trouve que c'est très très encourageant qu'on insiste sur le fait que maintenant le problème de l'économie en Tunisie est fondamental parce que c'est un pays qui a montré qu'il était capable de démocratie et tout le monde s'en est beaucoup réjoui, mais si la démocratie aboutit à l'appauvrissement des populations, ça ne pourra pas perdurer. Donc c'est très important de faire une amélioration. Alors... il me semble, moi, qu'en Tunisie, il y a deux problèmes fondamentaux. Il y a le déséquilibre territorial, le fait que la production est surtout sur les zones côtières et que les parties plus intérieures sont dans une situation beaucoup plus difficile. Et donc, c'est vrai que ce qu'on peut espérer, c'est que cet argent qui va venir va pas seulement être investi dans les zones côtières, mais surtout va servir au développement de l'intérieur de la Tunisie. Ça, je crois que c'est très important. Et comme on disait, il faut que... interlocuteur disait il faut que tous les Tunisiens en profitent, mais ça veut dire il faut que ça soit surtout dans la Tunisie de l'intérieur.
Mais ça veut dire, excusez-moi, juste sur ce point-là, ça veut dire que vous êtes, en tant qu'économiste, vous n'êtes pas favorable aux migrations? C'est-à-dire que vous ne pensez pas plutôt qu'il faut encourager ces gens à venir habiter sur les côtes plutôt que de les fixer?
Non, il faut les encourager à rester, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens sur les côtes. Hein. Et puis... Bon, je disais, il y a un déséquilibre de développement entre l'intérieur et les côtes, mais les côtes ont aussi quand même beaucoup souffert à cause de la disparition du tourisme. Alors ça, probablement qu'on peut faire des choses pour améliorer le tourisme, mais c'est quand même une cause exogène qui a fait que le tourisme a chuté en Tunisie. Ce sont les attentats, bien sûr, mais on peut espérer quand même que petit à petit, ça va se rétablir. Mais si vous permettez, il y a un deuxième problème extrêmement important en Tunisie, c'est le fait qu'ils ont des universités qui sont assez performantes, mais malgré tout, leurs diplômés ne trouvent pas non plus de travail. Et ça, il y a probablement une réforme importante à faire dans leur enseignement supérieur pour que ce soit plus adapté aux emplois possibles. Parce que c'est pas normal qu'il y ait tant de chômeurs qui soient même des chômeurs diplômés. Hein, ça, c'est le grand problème de la Tunisie, quand même, il me semble.
Sylviane Guillaumont-Janet, vous êtes membre du conseil d'administration de l'AFD, l'Agence française de développement, qui fête ces jours-ci son 75e anniversaire. Sur le terrain, cette agence est parfois critiquée pour être éloignée des réalités économiques, de la vie quotidienne des gens qu'elle est censée aider. Est-ce que vous êtes consciente de ce regard qui est souvent porté sur l'AFD en Afrique? Est-ce que vous partagez ces critiques? Et quelles seraient les préconisations que vous feriez ou que vous faites peut-être dans le sein du conseil d'administration à l'AFD pour remédier à tout ça?
Non, vraiment, j'ai pas l'impression que l'AFD soit éloignée tellement du terrain. D'abord parce que ça, c'est dans les traditions de l'AFD d'avoir toujours, presque dans tous les pays où elle intervient, une agence avec au moins deux personnels de l'AFD, en généralement plus. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de contacts avec le personnel de l'AFD. Et je trouve qu'ils sont très souvent sur place et qu'ils connaissent bien la réalité quotidienne où ils interviennent. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un faux procès, franchement.
Hein? Mais est-ce que ce n'est pas plus généralement une critique, ces commentaires qui peuvent être faits ici ou là, une critique de l'aide publique au développement, de l'aide venue des pays du Nord vers les pays du Sud?
Oui, c'est vrai, ça c'est une critique. Et je pense que c'est une critique qui, dans une certaine mesure, est valable pour un certain nombre de bailleurs de fonds. Notamment, je dirais, lorsqu'ils interviennent sans partager la langue des pays. Ça, et donc sans pouvoir vraiment comprendre ce que les gouvernements désirent.
Vous pensez à quel organisme en particulier ?
Je pense par exemple au Fonds monétaire international, qui a l'anglais comme langue, qui fait beaucoup d'efforts dans les pays francophones pour envoyer des francophones, mais comme il manque de francophones, parfois il parle en anglais et les gens en fait ne comprennent pas. Moi j'en ai eu plusieurs témoignages, mais c'est aussi vrai de la Banque mondiale, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui nous disaient, je leur disais, mais quand une mission du fonds de la banque vient et qu'ils vous font des conseils, quand ils parlent anglais, vous comprenez? Alors ils me disent, non, pas très bien. Alors je dis, mais vous le dites? Oh non, ce serait pas poli. Bon, mais évidemment, ça rend moins efficace les actions.
Qu'est-ce que vous leur dites à la Banque mondiale et au FMI? Venez à Clermont-Ferrand recruter nos étudiants, les gens conformes, c'est ça que vous leur dites?
Oui, mais d'ailleurs, ils le font. Hein. Ils en sont très conscients, je pense, de ce problème. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui ont été recrutés par le Fonds monétaire international et donc qui interviennent. Moi, j'ai un étudiant avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a été au fond, je ne vais pas le nommer, mais quand il est arrivé au fond, naturellement, comme il était francophone, il était dans un milieu anglophone, c'était très dur, mais il a fait des progrès. Et puis la première mission qu'il a faite, c'est en Algérie. Et en revenant, je lui ai dit, alors vous étiez content? Il me dit, oh, bah oui, c'était agréable, parce que je suis allé dans un pays qui parlait français. Puis il me dit en riant, puis vous savez, je pense que j'étais le seul à vraiment comprendre ce que disaient les Algériens. Alors ça m'a quand même impressionné.
Frédéric Maury.
Sur cette question de l'efficacité de l'aide au développement,
pour une dernière question.
Il y a une multiplication des banques de développement. C'est-à-dire avant, il n'y avait que la Banque mondiale et aujourd'hui, il y en a plein. Il y a la Banque des BRICS, la dernière qui vient de se créer, par exemple. Est-ce que ça ne remet pas fondamentalement en cause le rôle de ces banques de développement et notamment celle de la Banque mondiale et du rôle qu'elle peut vraiment avoir sur le terrain? Le fait qu'il y ait maintenant une multitude d'institutions qui agissent.
Est-ce qu'il y a vraiment une multitude? Enfin, il y a pour l'Afrique, par exemple, il y a la Banque africaine de développement.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une grande réflexion à l'heure actuelle de savoir si les bailleurs de fonds doivent mettre leur argent plutôt dans la Banque africaine de développement ou plutôt dans la Banque mondiale. Bon.
Vous en pensez quoi, vous?
Moi, je pense qu'ils devraient le mettre un peu plus dans la Banque africaine de développement, un peu moins dans la Banque mondiale, parce que ça irait un peu dans le sens d'une appropriation de leur politique par les Africains. Ceci dit, la Banque mondiale, il y a beaucoup d'Africains qui sont... Et quand la Banque mondiale envoie des fonctionnaires, ce sont souvent aussi des Africains. Donc, est-ce que ça fait beaucoup de différence? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire.
Eh bien, nous vous réinviterons, Sylviane Guillaumont-Jeannet. Nous vous laissons le temps de la réflexion. Vous nous direz ce que vous en pensez, parce que cette émission est maintenant malheureusement terminée. Merci, Sylviane Guillaumont-Jeannet, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été la dernière grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique de l'année 2016. Le prochain grand invité, ce sera en janvier 2017. Vous pouvez retrouver la captation vidéo de cet entretien sur les sites de RFI et de Jeune Afrique. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Orange.